Alexandre Dumas, Black, chapitre 34. Où le chevalier rencontre à la fois ce qu'il cherchait et ce qu'il ne cherchait pas. Le chevalier de la graverie sortit de l'estaminet hollandais tout autre qu'il y était entré. Son chapeau, ordinairement placé perpendiculairement à l'axe de son visage, et légèrement incliné sur les yeux, avait pris une posture diagonale qui lui donnait des allures tout à fait crânes et même un peu tapageuses. Une de ses mains, placée dans la poche de son pantalon, y jouait de la façon la plus cavalière avec quelques louis dont on entendait le froissement, tandis que l'autre brandissait son parapluie et faisait décrire à l'extrémité du pacifique ustensile les figures les plus capricieuses de l'escrime. Lui, qui, d'ordinaire, cheminait la tête basse, descendant sur le pavé pour un enfant qui tenait le trottoir, à cette heure, il portait le front haut, le buste droit, la poitrine effacée, en homme qui a vaillamment conquis sa place au soleil, attendant imperturbablement que les passants se dérangeassent pour lui. Ce qu'il ne manquait pas de faire, les uns par respect pour son âge, les autres par déférence pour sa croix, les autres, enfin, parce que l'air cassant du chevalier leur imposait en réalité. Il fut un instant tenté d'entrer chez un marchand de tabac et d'y acheter un cigare, objet pour lequel il avait toujours professé la plus indomptable aversion. Il lui semblait qu'un cigare était le complément obligé de sa nouvelle attitude, et il se voyait avec complaisance, lançant, comme un autre Cacus, d'énormes bouffées de fumée vers le ciel, et acquérant ainsi un nouveau point de ressemblance avec son ami Duménil, que, momentanément, il se donnait pour modèle. Mais par bonheur, il se souvint qu'un certain soir à Papeïti, ayant pris une cigarette aux lèvres de Mahaouni et ayant aspiré quelques gorgées de l'odorante vapeur dont la jeune Tahitienne aimait à s'entourer comme d'un nuage, il s'en était suivi d'abominables nausées et un malaise dont il lui avait fallu près de 3 jours pour se remettre. Il pensa qu'un pareil spectacle donné à ses ennemis pourrait compromettre la réputation qu'il venait d'acquérir, et il renonça judicieusement à cette velléité. Le chevalier s'en tint donc à ce que la conscience de sa valeur personnelle, qui venait de se révéler à lui, donnait d'airs imposants à sa physionomie, et rentra modestement à l'hôtel de Londres. Maintenant, en historien véridique que nous sommes, nous devons avouer que, malgré l'assurance et l'aplomb avec lesquels le chevalier avait provoqué Gratien d'Elben, malgré la satisfaction de lui-même que lui avait causée sa vaillante conduite, monsieur de la Graverie dormit fort mal. Ce n'était point la peur de la mort ou la douleur qui causait son insomnie, non. Deux choses l'inquiétaient bien autrement. La première, le sort réservé à Thérèse dans le cas où il lui arriverait malheur à lui. La seconde, la crainte qu'une fois arrivé sur le terrain, son attitude ne vînt à se démentir et ne répondit pas suffisamment au prospectus qu'il avait lancé. Pour Thérèse, il se rassurait un peu en songeant à la promesse que lui avait faite Henri, promesse qui deviendrait encore plus sacrée pour ce dernier lorsqu'il en arriverait à connaître celle sur laquelle il avait promis de veiller. Monsieur de la Graverie espérait d'ailleurs, quoi qu'en eût dit son frère, pouvoir assurer l'avenir de la jeune fille par un testament holographe bien en règle. Restait le duel. Quelques heures de solitude et de réflexion avaient refroidi le sang du chevalier et quoique sa détermination demeurât toujours la même, il avait besoin de faire appel à toute sa raison pour se rasséréner. Malheureusement, la tâche était difficile, et plus le chevalier s'évertuait à se prouver à lui-même qu'il avait toutes sortes de raisons pour être tranquille, plus une foule d'idées noires se faisait jour dans son cerveau. Tout ce qui, quelques heures auparavant, lui semblait ne pas mériter un regret, lui paraissait, en ce moment, si doux, si bon, si séduisant, qu'il ne pouvait prendre le parti de s'en séparer. Toutes les joies, tous les plaisirs, toutes les jouissances de sa vie passée se représentaient à sa mémoire, et, se tenant par la main, dansait un pas séducteur et provoquant dans sa mémoire, en ayant l'air de lui dire, avec un accent plein de mélancolie, « Adieu, chevalier, tu vas nous perdre, toi qui pouvais si bien nous conserver, si tu n'avais fait le jeune homme, le querelleur, le duelliste, le redresseur de tort, le Don Quichotte, enfin. » Le chevalier trouvait cette évocation chorégraphique extrêmement désagréable. En même temps et tout à la fois, un chaos de sinistres perspectives grouillait dans les lointains de son imagination, comme pour se mettre en harmonie avec les premiers plans. Il sentait le froid de la mort glacer sa chair, et de là passer dans ses os. Il lui semblait que les esprits de l'autre monde venaient s'emparer de son cadavre. Il sentait sur son visage le souffle de grandes ailes de chauve-souris agitant l'air. Le moindre bruit qu'il entendait dans le voisinage était, pour lui, celui d'un marteau assemblant les planches de la bière qui devait être la sienne. Tout éveillé qu'il était, il rêvait qu'on le mettait en terre, et il entendait l'argile et les pierres tomber lourdement sur son cercueil. Il sentait les mille reptiles du tombeau se glisser entre les plis de son suaire, et sa chair tressaillait d'avance à leur contact visqueux et glacé. Aussi, la nuit, mère de toutes les funèbres apparitions, lui sembla-t-elle bien longue, et dès qu'il vit poindre le jour, se hâta-t-il, contrairement à ses habitudes, de se jeter à bas de son lit. Décidément, se disait le chevalier tout en grelottant, moitié de froid, moitié à cause des dispositions dans lesquelles il se trouvait, décidément, je n'étais pas fait pour être un héros. Enfin, je n'en aurais à mes propres yeux que plus de mérite à me bien conduire. Mais c'est singulier. Hier, je n'avais pas peur le moins du monde, alors qu'au contraire, j'eusse dû hésiter. Tandis que c'est maintenant que le frisson me gagne. Je ne puis cependant pas provoquer un homme à chaque instant de la journée afin de maintenir mon courage à une température convenable. Le chevalier, pour ne pas laisser à ses pensées démoralisantes le loisir de le tourmenter de nouveau, se décida à écrire à Henri d'Elben, sans lui nommer son adversaire, lui annonçant que la rencontre serait, selon toute probabilité, fixée au lendemain, 8 heures du matin, et le priant, en conséquence, de venir le prendre à 7 heures pour aller au rendez-vous. Il ne voulait point le mettre en contact avec les officiers qui lui eussent tout dit. Et de là au lendemain, ou plutôt à l'heure fixée pour que les témoins se rencontrassent, il espérait trouver un deuxième parrain qui réglerait les conditions du combat avec les seconds de Gratien. La lettre finie et cachetée, M. de la Graverie sortit pour la jeter lui-même à la poste. Dans les occasions importantes, le chevalier aimait assez à s'en rapporter à lui-même. Comme il franchissait la porte cochère de son hôtel, il se trouva nez à nez avec l'homme qui lui avait promis de lui faire retrouver Black. « Oh, oh, déjà levé, monsieur ? » lui dit Pierre Marteau en l'abordant. Eh bien, l'on peut dire que voilà un chien plus heureux que bien des gens. Ainsi, moi, je puis m'égarer. Personne n'en perdra le sommeil, Dieu merci. Mais au reste, ce sera bientôt l'heure. « Quelle heure ? » demanda le chevalier, dont la tête n'était pas encore bien raffermie. « L'heure à laquelle, j'espère, vous remettre en possession de votre animal. »«
Vous l'avez revu ? Oh, conduisez-moi vers lui, mon brave homme. Si j'avais près de moi mon cher Duménil, il me semble que je n'aurais plus peur de personne. »
« Patience, patience, nous allons nous acheminer tout doucement du côté où il est, et vous verrez que je ne vous ai pas menti. »«
Mais où allez-vous donc, ou plutôt, où allons-nous donc ?»«
Au marché aux chiens, pardieu. Ne croyez-vous pas que le filou qui a enlevé votre animal l'a pris pour en faire des reliques ? Allons donc !»«
Mais enfin, demanda le chevalier,
voilà la chose. Le chien n'a pas été réclamé. On n'a vu ni affiche, ni annonce, ni récompense, grosse ou petite. On est donc tranquille. Si bien que je vous jure qu'à l'heure qu'il est, votre caniche chemine comme nous dans la direction de la barrière de Fontainebleau. C'est en effet à la barrière de Fontainebleau que les dimanches, mardis et vendredis de chaque semaine se tient le marché aux chevaux, auquel le commerce des chiens sert, pour ainsi dire, de complément et d'appendice. Deux peintres dont l'un nous a été enlevé dans la force de l'âge, Alphonse Giroux et Rosa Bonheur, la femme au doux nom et au talent vigoureux, ont fait de ce spectacle deux tableaux qui, avec des qualités différentes, en ont parfaitement reproduit la physionomie pittoresque. Seulement, disons la chose en passant, pour l'édification de ceux qui prennent les dénominations à la lettre, ce n'est point au marché aux chevaux qu'il faut aller chercher les magnifiques animaux qui promènent l'élégance et le luxe dans les rues de Paris, ou sur les allées sablées du bois de Boulogne. Le marché aux chevaux est essentiellement utilitaire. La beauté, la finesse des formes, la distinction de race n'y sont pas cotées le moins du monde. Ce que l'on vient y chercher, ce sont des machines à travail, et encore les y veut-on dans les conditions d'économie les plus grandes possibles. C'est dire assez qu'à part quelques percherons, quelques boulonnais propres au charriage, on n'y rencontre que ce qui a été usé, abîmé, éreinté sur le pavé de Paris, cet enfer des chevaux. On n'y voit que de pauvres vieux débris fourbus, auxquels la spéculation s'obstine à faire rendre tout ce que Dieu avait mis de force dans leurs muscles, de vigueur dans leurs reins, avant de les renvoyer au néant, en passant par le charnier de Montfaucon. Ce dont il faut surtout se défier au marché aux chevaux, c'est des animaux qui semblent sains et bien portants. On peut gager, à coup sûr, que ceux-là sont rétifs ou ont le vertige. Malgré l'aspect misérable de chacune des individualités chevalines qui peuplent ce bazar, son aspect ne manque pas d'animation. On y fait trotter, galoper, piaffer un cheval de 30 francs avec un accompagnement de coups de fouet et de bruit de sabots, absolument comme on le fait chez Crémieux ou chez Drake pour un 500 écus. Ce sont les mêmes ruses, les mêmes phrases, les mêmes serments que chez nos marchands les plus en vogue. Et il y a infiniment plus de couleurs ici que là-bas, c'est-à-dire à la barrière Fontainebleau, qu'aux Champs-Élysées. Comme nous le disions tout à l'heure, le commerce des chiens sert d'appendice à celui des chevaux. Réduit à des proportions honnêtes, le commerce des chiens serait une pauvre industrie. Aussi, comme il est entendu que chacun doit vivre de son état, les marchands de chiens se sont-ils arrangés de façon à rendre le leur le plus lucratif possible. Au lieu d'élever des chiens, ce qui a raison de 6 francs au minimum par mois, donne au bout de l'an un total de 72 francs comme valeur de l'animal, avant de réaliser un centime de bénéfice, ils ont jugé infiniment plus simple et plus profitable de ramasser sur la voie publique des chiens tout élevés et de les mettre en vente. Puis, comme les chiens errants devenaient de plus en plus rares, on leur a facilité le vagabondage en faisant pour eux ce que nous avons vu faire pour les pagnols de Monsieur de la Graverie. Le marché aux chiens, qui nous entraînait à cette savante dissertation, se tient dans les contre-allées du boulevard de l'Hôpital, avoisinant la barrière de Fontainebleau d'Italie. Quelques-uns de ces intéressants quadrupèdes sont attachés à des piquets. Les petits sont en cage. Les gros se promènent avec leur maître, ou plutôt avec ceux qui le sont devenus par des circonstances si fortuites que, vu la variété des circonstances, nous n'abordons même pas ce chapitre. On trouve là des chiens de toute grandeur, de toute grosseur, de tout poil, de toute race, de toute physionomie. Il y a des chiens des Pyrénées, aux poils fauves et à l'air paterne. Défiez-vous-en. S'appelait-il mouton, comme celui qui un jour me croqua la main. Il y a des bouledogues au nez écrasé, à l'œil saillant, aux dents en défense de sanglier. Il y a des terriers, des mâtins, des chiens couchants, des braques, des pointères, plus ou moins authentiques. Le chien de berger et le King Charles y sont représentés. Le chien courant, depuis le basset jusqu'au chien d'ordre, y ont leur place. Les chiens loups, blancs et noirs, qui semblent des conducteurs de diligence enveloppés de leur fourrure. Les chiens turcs, qui semblent sortis de la leur et qui grelottent toujours. Les chiens de la Havane, que l'on trouve avec tant de peine sous leur longue soie, s'y rencontrent également. Le carlin lui-même, ce chien célèbre, sinon illustre, que l'on prétendait disparu comme le mammouth, et dont Henri Monnier se vantait d'avoir sauvé la mémoire de l'oubli, le carlin lui-même y envoie de loin en loin quelques spécimens. Puis vient la cohue des roquets, cohue si nombreuse, si variée, si pleine de fantaisie dans ses ramifications, que Buffon, en la voyant, eût bien certainement déchiré sa nomenclature de l'espèce canine et la généalogie qu'il dressait pour chaque race, généalogie aujourd'hui indéchiffrable. Depuis près de 2 heures, le chevalier de la Graverie et son compagnon battaient en tous sens le boulevard de l'Hôpital, allées et contre-allées, et ils n'avaient point découvert ce qu'ils étaient venus y chercher. Plus de 10 fois déjà, l'honnête Pierre Marteau, désireux de gagner son argent, avait dit au pauvre chevalier, en lui montrant un chien dont le signalement se rapprochait de celui de Black, « Voyez, monsieur, n'est-ce pas là votre Duménil ?» Et plus de 10 fois déjà, le chevalier de la Graverie avait répondu avec un gros soupir, « Hélas, non. Ce n'est pas lui. » Tout à coup, notre héros poussa un cri de joie. À l'angle de la rue d'Ivry qui lui faisait face, il venait d'apercevoir un homme conduisant en laisse 2 chiens. L'un des 2 chiens, c'était Black. L'homme était en conférence avec un monsieur qui semblait examiner les pagnols avec la plus vive curiosité. « le voilà !» s'écria Monsieur de la Graverie. « Tenez, il me reconnaît. Il tourne la tête de mon côté. Black, Black ! Ah, mon pauvre Duménil, dans les circonstances où je me trouve, que je suis donc aisé de te revoir !» Monsieur de la Graverie voulut traverser la chaussée. Mais en ce moment, les maquignons faisaient trotter non pas un, mais 10 chevaux. Il était impossible de franchir le boulevard sans courir le risque d'être écrasé. Et l'honnête Pierre Marteau, qui, n'ayant pas les mêmes motifs d'enthousiasme que le chevalier, avait par bonheur conservé tout son sang-froid, le retint fort à propos. Pendant ce temps, le monsieur avait tiré sa bourse de sa poche, avait payé le marchand, et, ayant reçu de lui la corde qui attachait Black, se disposait à s'éloigner. Le chevalier de la Graverie, empêché comme nous l'avons dit, voyait tout cela et criait « Arrêtez, arrêtez, ce chien est à moi !» Mais le bruit de sa voix se perdait au milieu des hurlements des maquignons, du claquement des fouets et du retentissement des fers sur le pavé. Enfin la chaussée devint libre. Pierre Marteau lâcha le pan de l'habit du chevalier qui s'élança à la poursuite de l'acheteur. « Monsieur, monsieur, s'écria-t-il en trottinant derrière lui, mais c'est mon chien que vous venez d'acheter là. » Le monsieur, qui n'avait d'abord fait aucune attention au cri du chevalier, comprit que c'était à lui que s'adressait la locution, et, si pressé qu'il parut d'emmener Black, il se retourna. « Hein ? » fit-il. « S'il vous plaît, vous dites ?»« Je dis, monsieur, » répéta le chevalier tout haletant, « que c'est mon chien que vous emmenez. »« Vous vous trompez, monsieur, » répondit l'acquéreur. « L'animal que je tiens en laisse m'appartient à 2 titres, dont un seul suffit pour valider sa possession. C'est moi qui l'ai élevé, je ne l'ai jamais vendu, et cependant je viens de le racheter tout à l'heure. » « Pardon, excuse, notre bourgeois, » dit Pierre Marteau avec politesse et en même temps avec fermeté, « mais je dois dire que la bête est à monsieur. Je suis témoin qu'on la lui a volée vendredi. À preuve qu'il y a 2 jours que je la cherche. Regardez, monsieur, regardez, il me reconnaît, s'écria le chevalier en prenant la tête de Black entre ses mains et en le baisant au front. Malheureusement, monsieur, répondit froidement mais résolument l'acheteur, cela ne prouve qu'une chose. C'est que vous avez possédé ce chien après qu'il m'a été volé à moi-même. Je doute que vous puissiez affirmer, sur votre parole d'honneur, qu'il y a plus de 2 ans que ce chien est à vous. Et cependant, ce chien a aujourd'hui 8 ans bien sonnés. Monsieur, dit le chevalier, qui, se rappelant le récit de Thérèse, sentait un certain trouble dans sa conscience, monsieur, mettez-le à prix, et je le paierai ce qu'il vous plaira de me demander. « Nulle prime ne peut me tenter, monsieur. Je suis, Dieu merci, assez riche pour ne pas avoir besoin de vendre mes chiens. En outre, celui-ci a pour moi un prix inestimable. Il me rappelle des souvenirs chers et précieux. Aussi, je vous affirme que, depuis 1 an ou 15 mois que je l'ai perdu au bois de Boulogne, il s'est passé peu de jours sans que je songeasse à lui. Je l'ai retrouvé, je le garde. » Gardez Black, monsieur ? Mais c'est impossible, s'écria le chevalier, dont la tête s'échauffait singulièrement. Monsieur, ce chien est à moi. Je me ferai tuer s'il le faut pour qu'il rentre en ma possession. Monsieur, répondit l'acheteur en fronçant le sourcil, quoique j'aie quelque pitié de ce que je crois devoir regarder de votre part comme un accès de folie, je suis obligé de vous dire que vous m'ennuyez. « Oh, que je vous ennuie ou non, monsieur, repartit le chevalier, qui rentrait peu à peu dans ses allures guerrières de la veille, j'ai un duel pour demain, et ma foi, pendant que j'y suis, je ne me laisserai pas arrêter par la perspective d'une seconde affaire. Je veux mon chien. » Et en disant ces mots, le chevalier haussait résolument la voix. Oh, ne crions pas, monsieur, reprit avec beaucoup de calme l'adversaire du chevalier. Voyez, le public s'amasse déjà autour de nous, et pour un homme de votre âge, Il n'est guère convenable de vous donner ainsi en spectacle.
Voici ma carte. Dans une heure, je serai chez moi. J'espère que vous aurez repris un peu de sang-froid et je vous attendrai pour régler cette affaire de quelque façon que vous le jugiez convenable.
Soit, monsieur, dans une heure.
L'inconnu salua froidement monsieur de la Graverie et s'éloigna en emmenant Black, qui, en fait de possession, n'admettait sans doute pas le droit de priorité, et qui ne suivit qu'en se faisant traîner et en s'adressant au chevalier de la Graverie des regards à lui fendre le cœur. Enfin, lorsque le chevalier eut perdu de vue Black et celui qui l'entraînait, il jeta les yeux sur la carte qu'il tenait à la main et il eut ce nom et cette adresse. J.B. Chalier, négociant, rue des Trois Frères, numéro 22. « Au diable ai-je vu ce nom-là ? » se dit le chevalier en s'acheminant vers la station de voiture de place. « Ma pauvre tête est si embrouillée par tout ce qui m'arrive que je crois vraiment que j'en perdrai la mémoire. »«
C'est égal, ce matin de chien m'a causé bien des ennuis. Mais aucun d'eux n'égalerait le chagrin que me donnerait sa perte. »
« Ah, tout cela est d'un bien fâcheux augure pour demain. » Et, comme une voiture justement passait à vide, il fit signe au cocher qui s'arrêta. Pierre Marteau lui ouvrit galamment la portière.
« Ah, mon ami, dit le chevalier, c'est vrai, je t'avais oublié. L'homme est vraiment un animal bien ingrat. »
Et, prenant 3 ou 4 louis dans sa poche, il voulut les donner au brave homme. Mais celui-ci secoua la tête.
Ce n'est pas assez, dit le chevalier. Viens à l'hôtel, mon ami, et je te donnerai davantage.
Oh, je ne dis pas cela, monsieur.
Et que dis-tu alors?
Je dis que je puis encore vous être utile, ne fût-ce que pour affirmer, devant qui de droit, que le chien est bien à vous, et que vous le teniez en laisse lorsqu'on vous l'a volé, boulevard des Italiens.
Eh bien, oui, viens. Un brave homme est toujours utile, et si tu ne me sers pas à cela, tu me serviras à autre chose.
Mais où vas-tu monter?
Avec le cocher, pardieu.
Monte donc avec le cocher, mon ami.
Puis, à lui-même, « Oui, 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 se dit le chevalier, comme pour se fouetter le sang, quand je devrais me battre avec ce chalier, au pistolet à bout portant, au mouchoir, j'aurai Black. »
Et tu ne m'abandonneras pas, n'est-ce pas, mon pauvre Duménil, dans cette circonstance où je risquerais ma vie pour toi?
Pierre Marteau avait refermé la portière et était monté près du cocher.
Où allons-nous, notre bourgeois? Demanda celui-ci.
Rue des Trois Frères, numéro 22, répondit le chevalier.
Le fiacre partit.